Nous recevons aujourd'hui le père Michel Dauban. Bonjour père.
Bonjour David.
Vous êtes le recteur du sanctuaire, un sanctuaire qui célèbre l'année jubilaire. Elle s'est ouverte le 31 décembre dernier. Elle se poursuivra jusqu'au 6 janvier 2026, jour de l'Épiphanie. Alors, on le sait, à Lourdes, c'est une année qui a été marquée déjà par de nombreux grands événements. On en vit un en ce moment où on enregistre cette émission, c'est le pèlerinage du Rosaire, avec la participation de plus de 17 000 pèlerins. Nous allons revenir, si vous êtes d'accord, sur cette année jubilaire vécue, ses joies, ses défis, et puis aussi sur les perspectives qui s'ouvrent déjà sur 2026, parce que, voilà, vous, on le sait, vous préparez avec la communauté des chapelains cette année 2026. Déjà, peut-être une première question. Vous confirmez bien, Père Michel Dauban, que le jubilé continue à Lourdes.
Tout à fait, le jubilé à Lourdes continue avec toute l'Église universelle comme jusqu'à l'Épiphanie 2026, comme vous venez de le dire. La saison des pèlerinages ne se termine que à la Toussaint, donc nous avons encore un gros mois d'activité avec des venues de pèlerinage. Et puis, de toute façon, comme dans la mesure où dans le sanctuaire de Lourdes, nous sommes dans la joie de manière permanente, nous n'allons pas arrêter de l'être à la fin de cette année 2025, en cette année jubilaire. Donc nous jubilons avec toute l'Église et avec tous ceux qui tiennent à venir ici en pèlerinage comme pèlerins d'espérance, effectivement.
C'est vrai qu'ils ont été nombreux, ces pèlerins d'espérance. Alors, vous venez de dire, ils vont continuer encore d'affluer. Mais déjà, on peut noter plus de 25% de passages cet été au sanctuaire, et quasiment le même ratio sur l'année. On pouvait craindre. Alors, le passage, ce sont les passages aux portes, hein, des pèlerins que vous mesurez. Est-ce qu'on pouvait craindre que Rome puisse concurrencer Lourdes ou finalement empêcher des pèlerins de venir à Lourdes? C'était une inquiétude pour vous?
Alors, on pouvait le craindre et à juste titre, parce que de fait, un certain nombre de groupes nous ont dit qu'ils venaient moins nombreux, parce que précisément certains pèlerins allaient en pèlerinage à Rome, et on le note pour des Français, mais pour d'autres nationalités, et notamment pour les Italiens, qui effectivement, peut-être depuis aussi le changement de souverain pontife, ont décidé d'aller en pèlerinage à Rome. Donc il y a ce phénomène, mais après, plus largement, il y a effectivement une augmentation de la fréquentation avec ces passages aux portes qui, pour tous les mois de l'année, même avant l'été, sont assez sensiblement plus importants que l'année dernière, sauf le mois de mars avec une question de décalage de la date de Pâques, mais c'est pas très très grand. Mais effectivement, on est autour de 23 à 25% d'augmentation par rapport à l'année dernière.
Évidemment, une augmentation de personnes, ça veut dire aussi mettre des dispositifs d'accueil. Il faut toujours pouvoir se mettre en disponibilité d'accueil de ces pèlerins. Qu'est-ce qui, selon vous, a été marquant pendant cette année jubilaire? Je pense, moi, au chemin du jubilé, par exemple.
Tout à fait. Je dirais que cette année, elle a été très très belle parce que les pèlerins qui sont venus entendaient bien bénéficier de la grâce jubilaire. Et de fait, j'allais dire entre guillemets, le fleuron peut-être de nos propositions. Alors, plus pour les pèlerins individuels, bien que les pèlerinages organisés ont pu faire une proposition similaire, ce fut ce parcours jubilaire qui a rassemblé beaucoup de pèlerins et qui a porté manifestement beaucoup de fruits. C'est ce que de nombreux témoignages nous ont révélé. Donc il s'agit tout simplement de s'approprier en tant que pèlerin d'espérance avec Marie cet évangile des pèlerins d'Emmaüs, pour être invité à se rendre compte que, à partir des joies, des peines, des souffrances, des questions que les pèlerins portaient, il y avait une expression qui était possible. Le Christ les accompagnait à travers sa parole et à travers les différentes propositions pastorales du sanctuaire, avec bien évidemment les sacrements, jusqu'au geste de l'eau, jusqu'à la rotonde de l'autre côté du gave. Eh bien, les témoignages ont été très nombreux et très positifs, à tel point que nous disons que pour 2026, et peut-être au-delà, je ne sais pas, dans la mission du sanctuaire, nous avons à proposer un parcours spirituel d'approfondissement d'un texte de l'Écriture qui permet aux pèlerins de partager.
C'est vrai qu'ensuite, les pèlerins se rendent dans les lieux de culte. Ils sont nombreux, trois basiliques, 25 chapelles pour y vivre les célébrations, y vivre les sacrements. Vous avez souhaité vraiment que la préservation du sacré soit soutenue pendant cette année jubilaire. Vous avez fait un certain nombre de réalisations à la basilique Saint-Pédis, à la crypte et aussi aux piscines. Pourquoi?
Je pense aussi à la grotte, à l'espace de la grotte qui est le lieu des apparitions, bien évidemment, et pour lequel nous devons porter toute notre attention pour sauvegarder un climat de prière, de recueillement le plus possible. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'essentiel. Et les pèlerins qui viennent dans le sanctuaire veulent des lieux de prière et de recueillement qui soient dignes, dans lesquels ils pourront le plus possible prier, se recueillir. La basilique Saint-Pédis, nous avons refait l'éclairage. J'ai envie de citer aussi la chapelle Saint-Paul VI, qui est absolument magnifique.
Une nouvelle chapelle.
Une nouvelle chapelle qui, de fait, méritait vraiment un aménagement de chapelle, et ce n'est plus une salle quelconque dans laquelle on peut célébrer l'Eucharistie. Donc j'en suis très très heureux, et les quelques pèlerins qui l'ont fréquentée l'apprécient aussi beaucoup. Elle est à découvrir, à redécouvrir. Et puis la crypte, qui a été, j'allais dire, relookée, et qui, elle aussi, est très 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 appréciable.
Donc c'est un embellissement aussi des lieux de culte. C'est nécessaire encore à Lourdes.
Bien sûr que c'est nécessaire. Je pense que nous sommes confrontés à un défi qui est un entretien permanent de l'existant et une projection vers l'avenir qui nous permette aussi de faire des investissements qui correspondront à des lieux, à des espaces qui seront plus exactement ce qu'ils étaient avant. Donc il y a les deux à conjuguer, la gestion courante et le futur,
C'est vrai que
l'investissement.
l'équilibre financier reste une vigilance constante, on imagine pour vous qui gérez aussi le quotidien du sanctuaire. Qu'est-ce qui vous donne confiance pour l'avenir?
Ce qui me donne confiance, c'est d'une part la fréquentation qui ne baisse pas, bien au contraire, d'une part, et puis d'autre part, c'est aussi la générosité des pèlerins. Alors, effectivement, qui ne donne peut-être jamais autant qu'on le souhaiterait, parce que nous sommes très très exigeants, c'est vrai, nous avons beaucoup de frais, c'est vrai. Alors, il y a un exercice qui consiste à voir dans quelle mesure nos frais peuvent être contraints. Voilà, nous ne sommes pas les seuls dans cette société et dans ce monde. En cette fin de 2025, je ne fais pas de parallèle avec d'autres entités que l'on peut connaître. Mais de fait, il y a vraiment cette source de la générosité, du don, qui me donne confiance, parce que je suis vraiment convaincu que dans la mesure où le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes est un lieu de grâce, dans la mesure où on permet aux pèlerins de vivre cette expérience de la grâce, de fait, cette grâce porte des fruits, et y compris en termes de générosité et de contribution au fonctionnement du sanctuaire.
Vous dites dans des orientations pastorales 2026 que vous avez écrites à la destination de la communauté d'accueil, voilà, pour se préparer à suivre, en tout cas cette feuille de route dans la mise en place des projets 2026. Vous dites sur l'économie du don du sanctuaire, c'est il faut recevoir pour pouvoir donner. C'est aussi ça finalement la mission, c'est recevoir pour donner finalement et transmettre aux pèlerins, c'est recevoir les moyens de la mission qui est confiée.
Oui, je pense que dans la mesure où l'on peut vivre une véritable expérience de foi, de charité, d'espérance, de qualité, et la qualité, elle est là, ça se voit sur les visages des pèlerins, malades ou pas, hospitaliers ou pas, jeunes ou pas, lorsqu'ils repartent. Eh bien, de fait, on aime le sanctuaire, et on est vraiment dans une disposition qui consiste à contribuer à sa vie.
Vous dites dans les orientations pastorales qu'évidemment Lourdes attire une grande diversité de pèlerins, qu'ils soient en sein de famille, des jeunes, des personnes en précarité, des personnes étrangères, etc. Comment voyez-vous leur accueil évoluer dans les années à venir, en 2026, mais aussi dans les années à venir?
Je pense que l'accueil, c'est toujours une exigence à se reposer de manière absolument permanente. C'est d'ailleurs un petit peu mon leitmotiv depuis 3 ans que je suis recteur de ce sanctuaire. Je pense qu'aujourd'hui, l'accueil, il doit plus que jamais se tourner vers les familles. Un certain nombre de familles n'ont pas forcément les moyens de venir avec un certain nombre d'enfants pour se mettre au service des familles d'hospitaliers, voilà, qui ont des moyens qui sont contraints. C'est qu'est-ce que nous mettons à leur disposition pour qu'ils puissent effectivement continuer à venir? Peut-être que aujourd'hui, pour moi, finalement, le plus important, après avoir parlé des familles, c'est les malades. On voit bien que le nombre de malades reçus dans les accueils, pour certains diocèses, augmente parce que la pastorale de la santé, parce que la direction des pèlerinages, parce que l'hospitalité est particulièrement dynamique et sait solliciter, recruter, élargir ceux qui viennent participer. Mais de fait, il faut toujours penser plus aux malades qui ne viennent pas forcément dans d'autres lieux plus nombreux. Voilà. Et dans certains diocèses, il y a un tassement. Et de fait, c'est une préoccupation majeure pour moi parce que je suis convaincu que un sanctuaire avec moins de malades, voire sans malades, et donc avec moins ou sans hospitaliers, c'est un sanctuaire qui perdait totalement sa spécificité et qui de fait pourrait vraiment décliner. Donc je crois qu'il faut absolument tout faire pour redire la proposition qui est faite aux malades avec ce lieu qui est ce lieu de guérison physique, ce lieu de guérison spirituelle qui est tout à fait majeur et unique au monde.
Après l'épiphanie, le 6 janvier 2026, on clôturera cette année jubilaire de l'espérance, mais elle continuera quand même de couler dans les sur le sanctuaire.
Oui, d'autant plus que nous entrerons dans un triptyque qui nous permettra d'aller jusque en 2028, qui correspondra au 170e anniversaire des apparitions, avec une méditation de l'évangile de l'Annonciation, de la Visitation et du Magnificat. Donc le thème pastoral de l'année, après avec Marie, pèlerin d'espérance, ça sera cette parole de l'ange à la Vierge Marie: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Que nous permettions aux pèlerins de découvrir, de redécouvrir, de toujours redécouvrir que le Seigneur nous veut remplis de grâce, nous salue, nous aime de manière inconditionnelle et nous accueille de ce fait-là pour que nous repartions plus forts, toujours dans l'espérance.
Merci, Père Michel Dauban.
Avec plaisir.
À une prochaine fois.